qui viennent pour la première fois, les deux animaux, vous m'entendez? Il me semble qu'il y a un écho terrible. Non, pour vous, c'est pas gênant? Donc, vous présentez les deux philosophes qui animent en alternance Philomania. Donc, celui qui va animer ce soir, c'est Nicolas Deray. Et la prochaine fois, ce sera Laurence Lacroix qui animera donc le Café Philo. Je vais laisser à Nicolas le soin de vous parler du déroulement du Café Philo. Simplement, je voulais vous dire qu'au départ, on faisait des comptes rendus écrits. Et qu'au moment de la pandémie, les personnes fragiles, qui ne pouvaient pas se déplacer, ont trouvé que c'était pas très vivant. Ils nous ont demandé si on ne pouvait pas. Alors, idéalement, ils auraient aimé des vidéos, mais ça, c'était compliqué. C'était hors de notre portée. Donc, on a pris l'habitude de faire des enregistrements audio. Donc, si l'un d'entre vous n'est pas d'accord pour que ça soit enregistré, merci de nous le signaler tout de suite. Sinon, on fera donc un fichier MP3 qu'on envoie à tous ceux qui nous en font la demande. Donc, si vous êtes intéressé à recevoir les enregistrements, n'hésitez pas à nous le signaler. Vous me donnez une adresse mail et je vous enverrai un lien pour télécharger le fichier. Il est trop gros pour que je l'envoie par mail. Donc, je vous envoie un lien WeTransfert qui vous permet de le télécharger. Ou si une fois vous ne pouvez pas venir et que vous avez envie de savoir ce qui s'est dit, vous nous écrivez à l'adresse qui figure sur le dépliant, et avant de partir, rassurez-vous que vous avez notre programme de la saison. Vous avez des petits dépliants sur une table juste après la porte vitrée.
Peut-être après la conférence du 4 octobre.
Ah oui, alors si vous prenez notre dépliant, vous verrez qu'on a un rendez-vous, à mon avis, très important le 4 octobre, le premier mardi d'octobre, avec Pauline Boyer, qui va nous parler d'une question dont cet été nous a démontré la brûlante actualité, la lutte non violente pour la justice climatique. Parce qu'il est urgent d'agir et il faudrait de préférence le faire de manière juste. Donc rendez-vous le 4 octobre après ce Café Philo.
Nicolas, juste un détail pour les personnes qui viennent pour la première fois. Une info, il y a une boisson qui vous est offerte avec les tickets d'entrée. Donc, il suffit de se présenter au comptoir pour être servi.
Une boisson non alcoolisée, pour que vous puissiez continuer à réfléchir.
Merci Marie-France. Alors, je présente très rapidement. C'est vrai qu'on a un écho qui est assez désagréable pour vous. Donc, le Café Philo, pour celles et ceux qui viendraient pour la première fois. 3-4 informations. Donc, comme vous savez peut-être, il n'y a pas de thème préétabli, prédéfini. C'est nous qui allons, c'est vous qui allez en décider ce soir, en suggérant telle ou telle question, telle ou telle problématique. Deuxième élément, c'est que c'est évidemment pas un cours de philosophie, même si Laurence et moi sommes enseignants de philosophie pour la plupart du temps. Là, notre rôle, c'est d'animer le débat et puis d'ouvrir quelques pistes, mais surtout pas de transmettre un savoir de manière trop magistrale ou trop descendante. Et puis, troisième point, c'est que, évidemment, c'est un débat, donc ça signifie qu'on argumente, ça veut dire qu'on s'écoute et qu'on essaye de faire passer la parole pour que tout le monde puisse s'exprimer s'il le désire. Et de façon la plus cordiale possible, la plus courtoise, mais on n'a jamais eu de problème de ce type. Bref, c'est un débat. Ce n'est pas une joute oratoire ou verbale. Voilà. Eh bien voilà, donc premier temps du café. Si vous avez soit une question, soit des thèmes, ce n'est pas forcément sous la forme d'une interrogation, que vous voudriez proposer à l'Assemblée, n'hésitez pas à prendre la parole et puis on va les noter. Puis ensuite, on va très simplement, de manière très cordial, décider ensemble de la question qu'on aura envie de traiter. Donc, on recueille vos propositions. S'il y en a. Oui, monsieur.
Bonsoir. Salut. La question, c'est sur un sujet d'actualité qui est suite à une réflexion de Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance. Donc une question récurrente, puisque c'était déjà une question du 19e siècle sur le charbon en Angleterre. Donc en fait, c'est la question autour de ça. Donc comportement sur la fin de l'abondance, c'est comme la philosophie, c'est aussi un apprentissage de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Donc camp d'abondance ou fin d'abondance, quel type de comportement comment ça se fait par rapport à ça?
Très bien, donc je le répète pour tout le monde. Camp d'abondance ou fin d'abondance, comment se situer par rapport à cela? Bref, la question de le mot-clé de la rentrée. La question de la sobriété qui faisait sourire dans certains milieux à certains moments, et qu'aujourd'hui on entend à longueur d'onde. Oui, monsieur.
Bonjour.
Bonsoir, oui.
Oui. Bizarre, le micro.
Il y a un écho étrange.
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de traiter aujourd'hui ou une autre fois quelque chose qui tourne autour du risque, de la responsabilité, de l'obéissance. Voilà. Est-ce qu'on peut être responsable dans un univers sans danger? C'est-à-dire, est-ce que le risque et la responsabilité, ça marche ensemble? Et est-ce que quand on obéit, on se dégage de responsabilité?
D'accord.
Donc, peut-être qu'on pourrait reformuler, si vous en êtes d'accord, sans trahir votre proposition, jusqu'où et comment peut-on assumer une responsabilité?
Oui, mais c'est
ou de quoi sommes-nous responsables?
Oui. Et puis aussi la question du danger. C'est-à-dire qu'on est dans une civilisation. Vous m'entendez tout de suite? Ça marche?
Non, mais moi je vous entends. Mais...
Oui, donc on est dans une civilisation où le risque zéro n'existe pas, mais c'est panique à bord. Dès qu'il y a un risque, on cherche des responsables, on cherche des coupables. Il faut mettre des masques, il faut prendre des distances, etc. On a baigné dans un environnement angoissant où on a accusé les gens de faire prendre des risques aux autres et de prendre des risques à la société tout entière. En même temps, on leur dit d'obéir. Pour moi, l'obéissance, c'est pour ça que j'ai obéi aux ordres, Nuremberg, etc. Donc, voilà, toute cette dialectique qu'il y a entre les notions de responsabilité individuelle, d'existence d'un danger, parce qu'il n'y a pas de danger, je suis responsable de rien. Hein. Je suis responsable de ma vie, c'est parce que je risque de rater. Voilà, donc toute cette dialectique est par-dessus.
La question d'obéissance. Ouais.
Voilà, la question d'obéissance qui va.
Ouais, il me semble que de quoi sommes-nous responsables, ça peut assez bien résumer votre idée, parce que ça nous laisse la possibilité de traiter la question de manière assez diverse. Donc la question de l'abondance, ou la fin de l'abondance et peut-être de la sobriété, la question de la responsabilité par rapport aux risques et aux injonctions qui nous sont faites. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. Je vous laisse le temps de la réflexion. Oui, madame.
Moi, c'est par rapport à la situation conflictuelle sur la.
On a des problèmes de micro
non.
Ce soir.
Oh, c'est pas con.
Je vais essayer de.
Par exemple, le conflit russo-ukrainien, c'est la question des conflits. En fait, on a l'impression que depuis des siècles, et agit tout le temps de la même façon, c'est-à-dire que c'est des cycles de conflits, etc. Donc d'où vient le conflit? Est-ce qu'il ne fait pas partie intrinsèque de notre psyché? C'est-à-dire que, voilà, on part aux sources et donc du coup, il y a une...
D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer une existence, dire dans le terme large, d'existence individuelle, collective, sans conflit? Ou est-ce que le conflit est donné par dans la nature même de l'homme?
Elle-même de notre petit moi, peut-être pas de l'ensemble, de cette partie qui fait que des mêmes causes entraînent indéfiniment les mêmes effets à différentes époques, sous des formes différentes, mais qui reviennent tout le temps.
Ouais, peut-on échapper au conflit?
Voilà, par exemple.
Donc la question du conflit, peut-on y échapper ou est-ce que c'est une sorte de loi de la nature? La question de l'abondance et la façon de s'y adapter? La question de la responsabilité. Et puis, Marie-France, vous aviez quelques
proposition qui avait recueilli des suffrages sur les séances précédentes, oui, mais qu'on n'avait pas traité.
Je tiens toujours une liste des sujets qui ont recueilli beaucoup de voix, mais pas suffisamment pour être traités. Donc, parmi ceux qui avaient recueilli le plus de voix, il y avait « Peut-on disposer librement de son corps ?» ou encore « Peut-on être heureux sans être égoïste ?»
Très bien. Bon, voilà, on peut aussi se proposer pour ce soir.
Oui, ça suffit, je pense.
Alors, si on résume, donc, en proposition 1...
Quand les abondances ou fin de l'abondance, comment se situer? Proposition 2, de quoi sommes-nous responsables? Passons à enlever la question du risque et de l'obéissance.
Voilà.
Question 3, peut-on échapper au conflit?
En revenant sur les questions des origines et de la loi.
Et puis les deux questions anciennes que j'ai exhumées, peut-on disposer librement de son corps? Et peut-on être heureux sans être égoïste?
Très bien.
Voilà.
Alors je vous propose, pour celles qui, et ceux qui découvrent le Café Philo, on vote autant de fois que l'on souhaite en premier tour de vote. Vous pouvez voter pour tous les sujets si vous souhaitez, si tout ce vous intéresse. Et puis ensuite, s'il y a une égalité, évidemment, ça sera un vote unique. Donc, sujet 1 sur la question de l'abondance. Quand d'abondance, fin d'abondance, comment se situer sur la question finalement de l'adaptation qui serait la nôtre aujourd'hui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Question 2 que monsieur propose sur le lien entre responsabilité, danger, obéissance, si je veux reprendre vos thèmes. Que j'ai reformulé sur de quoi sommes-nous responsables. Il faudra peut-être un petit peu élargir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Question 3 sur le conflit, sur les origines du conflit. Est-ce que le conflit est une donnée naturelle qui est liée à notre psychisme, ou est-ce qu'on peut tenter et comment y échapper, d'une certaine manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est la vérité. Et 20, 28, c'est ça. Merci. Un véritable exercice. Hein. La question 4, c'est celle que vous avez exhumée de nos archives sur peut-on librement disposer de son corps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la dernière question, peut-on être heureux sans être égoïste? C'est bien ça?
Oui, oui, c'est bien ça.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, bah, je pense qu'on n'y aura pas de deuxième vote, hein, parce qu'il y a une large majorité des personnes qui se sont penchées donc sur la question du conflit.
Alors, peut-être juste rappeler que justement dans les cafés philo, on s'écoute avec respect et qu'il n'y a pas de conflit.
Et qu'il n'y a pas de conflit.
Il y a des opinions.
Il y a des opinions distinctes. Il peut y avoir des opinions divergentes, des opinions opposées, mais évidemment, on fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Ou bon, s'il y en a, c'est qu'il n'y a plus de philosophie. Alors peut-être qu'on peut, madame, vous redonner la parole un instant pour essayer de dire finalement ce qui vous a motivé dans le fait de proposer cette question.
Moi, ce qui m'a motivé, c'est que je me rends l'histoire se répète infiniment. Et le fait qu'on dit souvent, on va prendre toutes les horreurs dans les livres d'histoire pour être sûr de ne pas recommencer, définitivement. Sauf que les différences, c'est quand même forcément sont dans le même pays.
Excusez-moi, je vous interromps. Question pratico-pratique. Avec ou sans micro ? Parce que apparemment les micros sont. Ça dysfonctionne. Ou alors un autre micro, parce que j'ai l'impression que. C'est haché, oui, c'est ça. Ouais.
Nous, on est discrètement dans les histoires, on va attendre tout ce qui concerne les outils pour être sûr de ne pas refaire l'horreur, etc. Sauf qu'en fait, on passe un temps à le refaire. Ce n'est pas forcément dans le même pays, ça peut être de la violence psychologique, ou physique, mais enfin, c'est toujours la même chose. Donc en fait, cette chose-là n'est pas la structure, la nature de notre ego lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il se confronte tout le temps dans des histoires de compétition aux doigts du plus fort.
Comme ça.
C'est
le potentiel. Cette loi. Entendu. Donc, si je résume en deux mots, vous partez d'un constat qui peut faire l'objet d'une discussion hein, sur
ah oui,
on n'apprend
pas
de ses erreurs, les fameuses leçons d'histoire, elles sont caduques. La seule leçon que l'histoire nous apprenne, c'est qu'on ne tire jamais des leçons d'histoire. Et finalement, il y a une sorte de permanence du conflit, qu'il soit physique, psychologique, inter-individuel.
On croit qu'on a évolué parce que ça prend des formes de plan utile, mais c'est toujours toujours.
Ok. Alors, monsieur, oui.
Je me demande.
Alors, parlez fort si oui. C'est un micro.
Alors,
ou...
Moi, la question, c'est tout dépend ce qu'on entend par conflit.
Ouais.
Si c'est violence, effectivement, ou si c'est désaccord, on peut être en conflit, simplement parce qu'on est en désaccord sur un point, donc on discute, mais il n'y a pas forcément de violence, c'est peut-être pas tout à fait la même chose.
Donc, alors qu'est-ce que, justement, si on veut poursuivre, parce que vous avez raison de partir de l'analyse, comment est-ce qu'on pourrait qualifier la notion de conflit ? Qu'est-ce qu'elle suppose ? Quel mot vous mettriez ?
Bah, un désaccord, une divergence, ça peut mener à une discussion qui peut être amicale, mais qui peut aller, si on est vraiment très opposé, à une rupture, mettons, entre les personnes, ou plus loin à une violence qui vraiment, vous parlez de l'Ukraine, la Russie dit ça, moi, ce territoire, etc., la violence. Mais à l'origine, c'est une divergence entre deux points de vue de personnes sur une question.
Oui, madame ?
Oui, une divergence, je pense que... avec un enjeu. Il faut qu'il y ait un enjeu. Parce que si c'est juste une différence de point de vue, puis après, salut, chacun repart.
Bien sûr, oui, c'est ça. Toute différence, enfin, toute expression de la différence, toute divergence même, n'est pas nécessairement source de conflit. Si je préfère le rouge et que vous préférez le vert, sauf si derrière ça, il y a un enjeu, mais on va rester sur son compte à soi, et puis chacun... restera avec ses préférences. Effectivement, il y a conflit lorsque sur une question des principes, excusez-moi si je mettais mon micro, ça serait peut-être mieux. Il y a conflit lorsque sur une question, sur des principes ou sur des valeurs auxquelles chacun tient profondément pour des raisons existentielles, pour des raisons collectives ou communautaires, il y a conflit, disais-je, lorsque cette divergence touche, et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure en proposant le sujet, à l'ego de chacun. Vous avez introduit la notion d'ego, c'est-à-dire à l'identité de chacun. Où j'ai l'impression que finalement, céder sur cela, c'est céder sur une part de moi-même, c'est beaucoup dire, mais céder sur une part de ce qui compte pour moi. En termes de valeurs religieuses, des conflits religieux, en termes de valeurs politiques, de valeurs morales, de valeurs sociales ou sociétales, comme on dit aujourd'hui. Bref, finalement, que je ne suis pas prêt à renoncer à cette idée, ce principe ou cette valeur, ou si je le fais, il va falloir que l'autre, ou les autres avec lesquels je risque d'entrer en conflit, qui n'est pas nécessairement violent, il va falloir que les autres puissent argumenter de façon à ce qu'ils me convainquent que je n'ai pas à rester sur mes positions initiales. Autrement dit, le conflit est à l'extrême limite du débat. Vous avez évoqué la notion de, non pas de débat, mais en tout cas de on va se mettre à discuter. C'est l'extrême limite. On peut débattre sans être en conflit, on peut même débattre de choses dont on n'a vraiment pas du tout de raison d'être en conflit. Il y a conflit lorsque le débat est en tension, est sous tension, et lorsque l'objet du débat met en scène l'identité de chacun, met en scène les ce à quoi chacun s'identifie, ce qu'il désigne comme étant objet de valeur. Et là, il peut y avoir conflit lorsque l'argumentation n'est pas apparemment suffisante. Monsieur, vous leviez vouliez prendre la parole.
Non, mais ça va aller sans micro, je pense. Moi, je ne sais pas si vous laissez la voix. Oui, c'est juste que il me semblait que vous faisiez l'impasse des conflits d'intérêts. C'est sur les conflits de valeurs, ouais. Des choses comme ça, il y a des choses bassement matérielles, mais
bien sûr.
Charpe lourdement, et ce n'est pas forcément lié à la même religion, les mêmes croyances, c'est juste pour un lopin de terre.
Très juste, ouais, vous avez raison de compléter. Oui.
Voilà. Ouais. Ou pour une femme. Donc il y a des sources de conflits, elles ne sont pas seulement
bien sûr. Pas seulement idéologiques, voilà. Ou symboliques.
Voilà. Mais... Vous êtes un pur esprit peut-être que
non. Non, non. Non, je mange, je dors.
Il y a conflit à partir du moment où il n'y a plus de dialogue. C'est-à-dire à partir du moment où au lieu de se parler, on s'insulte, etc., il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'échange. Là, on a basculé dans le conflit. Mais tant qu'on exprime un désaccord, quitte à se quitter en disant bah, toi, on n'est pas d'accord, tant pis, moi je vais boire une blonde et une brune, et puis c'est pas grave. Ah, mais voilà, c'est à partir du moment où, pour moi, le déclenchement du conflit, c'est on ne se parle plus, il n'y a plus d'échange.
Mais... C'est peut-être quelque chose, je vous laisse la parole tout de suite. On va peut-être pouvoir creuser ensemble, savoir si le dialogue est l'envers du conflit. Je pense que vous avez raison d'introduire cette idée. Et savoir si, parce que c'était l'une des questions que vous avez posées, est-ce qu'on peut échapper au conflit ? Est-ce que le dialogue peut être une réponse à un conflit présent, à des conflits passés ou à un conflit possible ? Autrement dit, quelle est la force du dialogue ? En gros, on est en train d'interroger la question de la non-violence. Hein. Quelle est la force ou la puissance du dialogue dans un rapport de force qui oppose des personnes aux intérêts ou aux valeurs, vous avez raison de souligner la notion d'intérêt, divergent et opposé. Finalement, est-ce que le dialogue peut nous sauver, pourrait être une porte de sortie vers un monde un peu plus pacifique ? Oui, madame.
Avant d'en arriver là, je pense qu'il faut comprendre exactement d'où vient le conflit. Le conflit, il ne vient pas du fait qu'on ait des opinions différentes, enfin, il ne vient pas du tout de là. Il vient du pourcentage que les deux protagonistes mettent de leur identification au conflit par rapport à leur ego. C'est-à-dire que quand on discute d'une question de façon neutre et qu'on ne met pas notre personnalité, il n'y a pas de conflit. Parce que ça devient quelque chose de neutre, alors que quand on est identifié et qu'on met son identité dans le sujet, et ben là, le conflit arrive à ce moment-là. Ça n'a plus rien d'objectif. C'est-à-dire que ça dépend du degré d'ego qu'on va mettre dans le truc. Si notre vie en dépend, si on a absolument besoin d'avoir raison parce qu'on a un terrible besoin de reconnaissance, ça va donner du conflit, parce qu'on s'identifie au sujet de la discussion, alors qu'il n'y a pas, c'est pas si identifié. C'est une discussion avec les deux. Voilà. Ça dépend du degré d'implication qu'on y met. Parce que là, ça devient très sensible. Le conflit naît à ce moment-là.
Très bien.
Vous voyez... On a le sentiment de ne plus exister,
ouais.
Pas raison, et ça n'a pas le dessus.
On va revenir sur la question de la reconnaissance.
Elles sont toutes deux là.
Monsieur, pardon.
Dans la question initiale, il y avait est-ce que c'est dans votre psyché.
Attendez, on va vous donner un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Enfin, tenter de vous entendre.
Oui. Dans l'expression de la question initiale, il y avait est-ce que c'était à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre psyché. Et en fait, en posant la question, l'humain a des conflits en lui-même. Il se pose des conflits tout au long de sa vie, à des moments donnés, qui ne sont pas forcément. Du fait de l'extérieur, enfin il y a toujours une interaction avec l'extérieur, mais il a lui-même des conflits en lui-même qu'il doit résoudre. Et donc, à part le moment où on a des conflits en nous-mêmes, une projection dehors qui est des conflits, c'est tout à fait naturel. Donc, comme la question initiale, c'est est-ce que le conflit est quelque chose de naturel ? Parce que c'était aussi la façon d'exprimer
la question. La façon de poser la question.
À partir du moment où déjà l'homme lui-même a des conflits durant sa vie sur un certain nombre de sujets, enfin pas forcément systématiquement, mais il en a. Le conflit est naturel à l'homme, c'est la première chose que je veux dire. Une deuxième chose, c'est que vous avez dit que est-ce que le dialogue est le contraire du conflit? Pour moi, les dialogues sont des fois des conflits, d'ailleurs des fois des voix s'élèvent, très très fort, où les dialogues, même sans s'élever la voix, sont plutôt méchants, c'est une forme de conflit, le dialogue. C'est, je ne vois pas le rapport entre le dialogue et une résolution de conflit. Le dialogue est un outil, comme le conflit aussi un outil. Ah. C'est une forme de dialogue, un conflit. Quand les gens s'envoient des bombes, ils dialoguent à travers des bombes.
Non, ils se combattent.
Oui, d'accord, mais un dialogue, c'est un échange. Il est verbeux. L'autre, c'est un échange, mais il n'est pas verbeux, il est matériel. Donc, le dialogue contraire de conflit, j'ai un petit peu de mal à dire, parce qu'on pense, ah, c'est par le dialogue et la diplomatie que va être résolu quelque chose. Non, ça, c'est une autre forme. Et la diplomatie, elle n'est pas que dans le dialogue, il y a d'autres éléments. Je ne vois pas tellement l'opposition entre dialogue et conflit. Enfin bref, je réagis sur deux choses différentes. Mais...
Oui, on va revenir sur la question de la naturalité du conflit lié à ce que vous avez évoqué, madame. Sur les processus d'identification, de lutte pour la reconnaissance, où chacun, finalement, a l'impression de jouer...
ne peut exister s'il
renonce à ça. Juste un petit point sur la question du dialogue, mais on aura aussi l'occasion de le creuser. Enfin, je ne veux pas jouer au professeur, parce que j'ai dit que ce n'était pas un cours de philosophie. Mais quand même... juste un petit point d'étymologie, et sans être trop cuistre. Dialogos, en grec, c'est... Dia, c'est ce qui passe à travers, comme en diamètre, et logos, c'est la raison. C'est la raison, et c'est la parole douée de sens. Et dialoguer, c'est pas simplement échanger des mots ou des paroles, ou changer des mondes. Dialoguer, c'est chercher à travers... un temps d'échange, chercher un accord, chercher à passer à travers l'autre, c'est-à-dire, pour le dire de manière moins métaphorique, chercher, et ça reprend un peu l'une de vos remarques, chercher à sortir de son identité ou de ses identifications, de ce à quoi je m'identifie, ce que je reconnais comme étant mes propriétés, pour essayer, tenter, s'efforcer, est-ce que c'est une utopie, est-ce qu'on y arrive ? Ça, c'est encore une autre question, pour tenter de s'identifier à l'autre. C'est ça, le dialogue. Le dialogue, c'est pas simplement un combat qui passerait par des mots, c'est pas simplement un échange de termes de manière anecdotique, c'est vraiment l'effort que chacun fait pour s'ouvrir à l'autre, pour citer un philosophe, Merleau-Ponty, il y a un très beau texte sur le dialogue que j'ai en tête, il définit le dialogue comme un être à deux. Comme un être à deux, comme la construction d'un monde commun. C'est-à-dire où chacun fait l'effort, finalement, de sortir de soi pour aller vers l'autre. Et c'est ça, finalement, peut-être, c'est pour ça que je m'étais permis de parler de l'envers de la violence. Si la violence, c'est l'expression de l'ego, lorsque des intérêts sont en jeu, qu'ils soient matériels ou idéologiques, peut-être, mais peut-être qu'il n'y a pas de dialogue possible, peut-être que le dialogue, ça n'existe pas. On peut avoir une vision aussi négative que ça. Peut-être que le dialogue, s'il existait, serait l'une des réponses ou la réponse à cette manifestation des égos qu'est le conflit violent. Et effectivement, on peut être en conflit violent par des mots, bien évidemment, autour d'une table. Il peut y avoir des conflits extrêmement, extrêmement violents et dévastateurs. Excusez-moi, j'ai pris la parole et je vous la redonne, monsieur.
Comme j'ai introduit la notion d'échange et de dialogue, ouais. Juste, je fais bien la différence entre celui qui écoute pour comprendre et celui qui écoute pour répondre. Donc, c'est pas la même chose.
Mais dialoguer, ce n'est pas non plus renoncer à son point de vue, renoncer à son opinion, renoncer à ses intérêts, ou à la défense de ses intérêts ou de son identité.
Est-ce que ça peut être la création d'une troisième voie ?
Oui, madame, attendez, on fait un peu passer la parole pour toutes. Après, je vous l'envoie.
D'après ce que vous disiez, je trouve que du coup, il y a des dialogues qui ne sont pas des dialogues. Si vous parlez de chercher à se mettre dans la position de l'autre, combien de dialogues vous en profitez pour tenir quelle est votre position ?
Ce que j'ai en tête, là, c'est le petit texte de Merleau-Ponty, enfin de Maurice Merleau-Ponty, le philosophe français, là, sur le dialogue. Il définit donc le dialogue, je me répète, comme un être à deux, comme la construction d'un monde commun. Et puis, de mémoire, je cite, hein, il nous dit dialoguer, c'est faire en sorte que nos positions, donc, plus qu'elles convergent, ne font qu'une. C'est-à-dire, c'est vraiment une sorte de tissu commun, d'accord, où chacun, finalement, va apporter sa pierre à l'édifice, ou pour reprendre la métaphore du tissage, chacun va tisser de son côté de façon à ce qu'il y ait un seul et même tissu. Effectivement, lorsque chacun expose sa position en cherchant à convaincre l'autre qu'il a raison, ce n'est pas nécessairement un conflit au sens de l'émergence d'une violence, etc. Ça peut aller vers le conflit, mais ça n'est pas un dialogue. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut que chacun soit en position, si jamais ça existe, d'accepter d'être réfuté, d'accepter la réfutation. D'accepter la réfutation, c'est un vrai courage, d'accepter de dire, bah, en fait, non, j'ai tort, et merci de m'avoir convaincu que j'avais tort, d'accepter d'être réfuté, et d'accepter de participer à la construction de ce monde commun avec l'autre. Autrement dit, c'est vraiment, je baisse les bras, d'accord, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas en position de défense, je ne suis pas non plus en position d'attaque, à te convaincre ou à te persuader, à argumenter une sorte de batterie d'arguments ou de figure rhétorique pour te montrer que j'ai raison. C'est je baisse les bras et viens, on va essayer de construire ça. Et Merleau-Ponty termine son texte que j'ai à l'esprit en disant, mais finalement, le dialogue, c'est l'autre mot, c'est très. Ça peut être. Il ne faut pas le prendre sur le ton du pathos, mais on peut le prendre aussi sur le ton du pathos, c'est l'autre mot de l'amour. Pour dialoguer, le dialogue, c'est l'amour. C'est-à-dire que je me lie à l'autre, non pas pour le dominer ou pour prendre un ascendant, mais pour. Parce que j'ai du plaisir à me lire à lui, il a du plaisir à se lire à moi, d'accord, à converger. Et finalement, pour qu'il y ait une société pacifiée, si jamais ça existait, et peut-être qu'on en est incapable, d'accord, il faudrait être en capacité de dialoguer, c'est-à-dire de se donner comme mot d'ordre dans notre rapport à l'autre, ce que les Grecs appelaient la philia, l'amitié civile ou civique, ce que dans l'Évangile on appelle l'amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais moi-même, disait le Christ, si jamais on voulait prendre cette référence religieuse. Bref, se donner la possibilité d'aimer les autres, c'est-à-dire de renoncer à son ego pour construire quelque chose. Question, et c'est un peu celle que vous avez posée, je vous laisse la parole tout de suite, est-ce qu'on peut entrevoir cette possibilité? Ou est-ce que, au contraire, nous sommes tellement, soit naturellement, soit socialement... Je crois que je serais bien incapable de donner une réponse, parce que là, il faudrait aller vers les sciences naturelles ou les sciences sociales. Ça excelle le domaine de la philosophie. Est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'à un moment donné, on est capable d'aller vers cette voie-là? Ou est-ce qu'on est aveuglé, pris dans la logique de la reconnaissance, de l'ego, de l'appropriation? Les Grecs, je vous laisse la parole dans un instant, les Grecs distinguent philia, l'amitié civique, et eros. Et Eros, c'est l'amour, mais au sens du désir de posséder l'autre. C'est le désir de domination, de possession, c'est un désir de consommation et de consumation. Je cherche à te consommer, à t'approprier, à te consumer, à te dévorer, en fait. Et ça, c'est l'amour Eros. Et l'amour Eros, c'est le conflit. L'amour filias, c'est peut-être ce que Merleau-Ponty appelle le dialogue. Oui, madame, excusez-moi, j'étais bavard.
En fait, avant ça, est-ce que ça ne serait pas l'art de l'écoute, c'est-à-dire déjà.
Ah, déjà, c'est ça aussi, baisser les bras, c'est tendre l'oreille. Hein.
Mais c'est l'art de l'écoute en se mettant en vulnérabilité, c'est-à-dire vraiment une écoute, de façon à créer presque une troisième voie, c'est-à-dire que le dialogue devient un cheminement. Et c'est ça l'intérêt du dialogue, c'est le cheminement qui est fait à travers une réflexion sur un sujet. C'est ça qui compte, c'est l'état d'esprit qui est derrière, en fait.
Alors, un cheminement et peut-être aussi avec, je vous laisse la parole dans un instant, monsieur, comme finalité d'essayer de trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que là, on revient un peu à la diplomatie, le dialogue au sens, j'allais dire, commun du terme. C'est-à-dire qu'on ne dialogue pas pour rien, on dialogue pour cheminer ensemble, mais on dialogue pour essayer de, non pas d'être dans un monde où tout le monde est d'accord avec tout le monde, voilà, mais au moins un terrain d'entente qui permet une convergence des points de vue.
Avec une progression. C'est ça la création, c'est dialogue.
Et ce que vous disiez, c'est que visiblement, alors, je ne sais pas si on peut partager ce constat, visiblement, en fait, tout ce qu'on vient de dire, là, ce sont des mots, et que dans la réalité, dans nos vies quotidiennes, la mienne, la vôtre, et dans nos vies collectives, nous en sommes incapables.
On n'écoute pas vraiment les gens avec le cœur.
Oui, monsieur.
Bah, je pense que la façon d'arriver au point où on est tous d'accord, ce serait de retirer les préjugés qu'on a et d'atteindre la seule chose qui fait qu'on est tous d'accord, ce serait, enfin, qui peut tous nous unir, ce serait la vérité.
Ah, c'est très juste.
Je pense que
La vérité. C'est une idée très pertinente, hein, ce que vous avancez.
Elle est dure à atteindre. C'est tout l'enjeu.
C'est la vérité qui réunit.
Si jamais on pour l'atteindre, il faut vraiment, c'est peut-être impossible, mais il faut vraiment retirer tous les préjugés qu'on a, tous les. Comment on explique ça? Justement, vous parliez d'un chemin, et ce serait plus. Ouais, c'est quelque chose d'idéal plutôt, c'est pas quelque chose de facile, mais je pense que c'est la seule façon, quoi. Enfin, voilà, je dis mon avis et...
Ouais, mais c'est cool, bah, voilà. On est là pour ça, on est là pour, pour dialoguer, je crois, voilà. Oui, madame.
C'est très beau ce que dit monsieur, ouais. Je me demande si on n'arriverait pas à plusieurs vérités. Il ferait que, même en enlevant tous nos préjugés, réussir à avoir une vérité, on a chacun nos vérités, donc c'est un peu... Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une vérité avec un grand...
Ah, il y a eu des réactions similaires. Voilà. Madame, et puis après on va essayer de creuser cette notion de vérité qui pourrait nous réunir. Mais... Oui, madame.
Moi, j'ai pris un petit peu un amont, c'est-à-dire ouais. que quand la question a été formulée, qu'il y avait l'idée des guerres actuelles et des conflits déterminés.
Oui, Armée, c'était madame, vous aviez introduit sur la question de la. Pardon.
On a semblé que l'idée de violence était exprimée était plutôt l'idée du conflit armé, l'idée des guerres qui traversent le monde actuellement. Et donc, et que dans l'idée de répétition, on était plus sur une question qui intéresse à l'historien peut-être. Mais en effet, est-ce qu'il y a une répétition, c'est pas une répétition, etc. Bon, c'est un grand sujet de l'histoire, mais ça peut être aussi un sujet de la philosophie. Et puis il y avait cette question qu'on peut poser de savoir si la violence est intrinsèque à l'homme. Moi, je dirais plutôt le mal, si vous voulez. Je vais changer un petit peu là, de registre. Mais finalement, si on pense à Freud, par exemple, vous avez parlé d'Eros, mais il y a parlé de Thanatos. Alors on pourrait peut-être parler des deux. Et,
je me permets simplement pour que tout le monde soit au clair avec la référence. Après, je vous redonne la parole dans un instant. Non, mais c'est juste pour que. Eros, Thanatos, ce sont les deux pulsions fondamentales qui structurent notre psychisme, selon l'hypothèse de Sigmund Freud. Eros, c'est la pulsion de vie, qui donne la pulsion sexuelle, la libido, etc. Et Thanatos, ça signifie mort en grec, c'est la pulsion de mort. Et qui se manifesterait, selon Freud, et dans la pulsion de destruction, auquel cas la réponse a été donnée, on n'en aura jamais terminé, et dans la pulsion d'autodestruction. Et la pulsion d'autodestruction n'étant rien d'autre finalement qu'une pulsion de destruction renversée et réciproquement. C'était juste pour la
merci. Merci. En tout cas, il a traité ça en trop d'un malaise dans la civilisation qu'il a écrit juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et bon, c'est une lecture qui reste encore aujourd'hui, semble-t-il, fondamentale. Parce que ça nous oblige justement à réfléchir sur ce qu'il y a de la perception de mort, justement, ce qu'il y a de mourir en quelque sorte. Et contre quoi peut-on y échapper? Ça, d'abord, on ne sait pas trop. D'autres philosophes ont tenté de répondre à la question, je me serais sans répondre. J'attends pas vous publier. Mais bon, il me semblait que tout à l'heure, quand on a formulé la question, on était davantage sur ces problématiques. Parce que la problématique du dialogue, je veux bien, hein, mais il me semble qu'on est dans quelque chose d'un peu plus je dirais, quotidien. C'est pas que la violence existe dans le quotidien. Probablement que dans nos sociétés civilisées, ou civilisées, je pense que peut-être toutes leçon. Dans notre société où il y a la politesse, notamment, on a là un élément qui permet, entre autres, de limiter les violences. Après, pour ce qui revient de la guerre, alors j'en ai à la guerre, mais bien sûr, si on parle du conflit ukrainien, il semble bien qu'il y ait la question des territoires, la question
donc des intérêts.
Et la question des femmes, en effet. Parce que la population russe est en très forte baisse. Bon, là, c'est pareil, je vais faire référence à l'Union européenne. On pense avoir la
question des Sabines, oui.
La question des femmes a toujours été des enfants, donc la population. Alors, là, il me semble que entre la Russie, l'Ukraine, la Russie et les Occidentaux, pour faire court, je ne sais pas si pour l'heure le débat est possible, enfin, le dialogue est possible.
Apparemment, il ne l'est pas là.
C'est rhétorique. Hein.
Oui, très bien. Voilà. Alors, si je peux me permettre.
Je vais m'arrêter là.
Ouais, je pense que pour l'instant, vous voyez, on a trois éléments qui sont apparus depuis le début de la discussion. Ce que vous avez évoqué sur la question de la naturalité du conflit, est-ce qu'on peut y échapper? Est-ce qu'au contraire, on est mu par des pulsions, par un ego, etc. Et si oui, comment? La question du dialogue que j'ai. Vous avez introduite, que j'ai un petit peu développé, et puis ce que vous avez évoqué, monsieur, et sur laquelle on peut rebondir, oui, mais finalement, il faudrait mettre à bas nos préjugés, si jamais c'était possible, enfin, une sorte de vœu d'ignorance, quoi, enfin, en disant, je ne suis pas sûr d'avoir raison, ça serait aller au-delà de nos préjugés, vers la vérité, et la vérité, c'est ce qui pourrait nous montrer que finalement, ces conflits sont sans raison, dénué de légitimité et que toute personne douée de bon sens, si jamais ça existait, devrait y renoncer. Oui.
Mais la vérité, d'accord, mais par exemple dans le conflit russe-Ukraine, où est la vérité? Chacun pense avoir la vérité politiquement parlant d'un certain type de régime qui serait bon pour l'humanité. Donc qui va dire la vérité? Et est-ce qu'il y a une seule vérité?
Alors là, le conflit, je vous laisse la parole tout de suite. Le conflit se joue avant même l'échange de mots violents ou de coups, d'obus, etc. Il se joue sur la prétention de chacun à détenir le vrai. Oui, madame. Non, il y a monsieur d'abord et puis ensuite vous. C'est une violence en elle-même. C'est peut-être même d'ailleurs le. Peut-être même, j'allais dire, le. Voilà, c'est ça, c'est l'origine même du conflit, c'est la prétention de chacun à.
À avoir raison. Et d'instant en instant, la vérité, c'est quelque chose qui s'impose au bout d'un moment où tout le monde se met d'accord de reconnaître une certaine chose.
Ouais. Monsieur ?
Moi, je pense qu'ils ont peut-être tous les deux tort d'une part, quoi. Je pense vraiment qu'il n'y a qu'une vérité. Comme dirait Platon, elle n'est peut-être pas de ce monde, quoi. C'est dans le monde des idées, quoi. Je pense vraiment, ouais. Par exemple, je vais citer une autre philosophe, Simone Weil, qui dit, je vais rebondir par rapport au conflit. Elle dit qu'on a une force en nous qui s'appuie sur nos bas instincts, qu'elle appelle la pesanteur. Pour vous expliquer comme ça, c'est qu'on a toujours la volonté, on a toujours la volonté de chercher une contrepartie à tout ce qu'on fait, à tous nos agissements. Et du coup, le seul moyen d'éviter de s'échapper de cette force, ce serait d'atteindre la grâce, ce qu'elle appelle la grâce, et du coup, ce serait le moment où on met tout de côté, on se détache de tout. Et c'est le seul moyen d'arrêter cette force en nous, qui est la pesanteur, et d'arrêter de chercher des conflits, se dégager de ses préjugés et pourquoi pas attendre la vérité et peut-être peut-être que on n'est pas capable de l'atteindre, mais une seule personne pourrait, je ne sais pas. J'ai peut-être dans tous les sens là, mais.
Non, très bien. Voilà. Attends, il y avait madame qui avait demandé la parole, et puis après, je vous la laisse.
Monsieur aussi.
Ah, excusez-moi. Alors, madame, oui.
Je vais dire que c'est peut-être une utopie ce que je vais dire, mais le conflit existera toujours, c'est inhérent à l'humain, mais ça pourrait être atténué par le respect de l'humain, de la vie. Le respect de la vie.
C'est un peu ce que
c'est une utopie, hein.
Ouais, c'est un peu ce que j'avais envie de traduire, parce que quand vous faites référence à Simone Veil, à la notion de vérité, on n'est pas loin d'une pensée mystique. Enfin, on a du mal à y associer un sens précis. Peut-être que dans le cas que vous évoquez, et alors à ce moment-là, il faut accepter le caractère idéal ou idéaliste ou utopique du propos. Moi, je suis prêt à l'assumer. Peut-être que la vérité qui pourrait nous unir, et je serais pas loin de dire, ça n'a aucun sens de glisser ça à l'oreille de Vladimir Poutine. On est d'accord, mais ça serait de lui dire. De dire en fait, il n'y a pas d'Ukrainien, il n'y a pas de Russe, quoi.
Oui, c'est ça.
Ça n'existe pas. L'Ukraine, ça n'existe pas. La Russie, ça n'existe pas. La France, ça n'existe pas. Ce sont des héritages de guerre, de conquête, bref. Là, c'est l'historien. Bref, les nations, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des humains. Et encore, les humains, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des vivants. C'est aussi vieux que le cosmopolitisme grec. Il n'y a pas d'étrangers sur Terre. Il n'y a pas d'étrangers sur Terre.
C'est un vrai idéal.
Il n'y a que des humains. Il n'y a que des vivants. Et donc, quand tu lances des bombes sur les Ukrainiens... Tu lances des bombes, on assume le caractère utopique du propos, hein. Tu lances des bombes sur tes frères, quoi, sur tes frères d'humanité, et tes sœurs d'humanité. C'est ça la vérité. Et là, évidemment, ça nécessite peut-être plus que de lutter contre ces préjugés. Parce que les préjugés, c'est il y a des Ukrainiens et c'est des salauds. Et c'est des fascistes, et des je sais pas quoi. C'est plus que ça. Ça nécessite finalement d'en revenir à la vérité que. Nous sommes tous des sapiens sapiens. Nous sommes tous les représentants de la dernière espèce humaine. Et plus largement, ça sera l'un des objets de la conférence du 4 octobre, nous sommes tous des vivants parmi les vivants.
Oui, mais composé d'héros, c'est Thanatos, comme disait madame. Donc,
comme tout vivant.
Ouais.
Mais ça ne s'est pas construit comme ça.
Bien
ça
sûr.
Ça s'est fait comme ça.
Monsieur, pardon. Excusez-moi.
Enfin, ça me fait réfléchir, ça me perturbe. Je reviens à un conflit qu'on connaît un petit peu mieux, parce que celui-là n'est pas terminé, qui est la Seconde Guerre mondiale. Et dans la Seconde Guerre mondiale, je suis un peu perturbé, parce que je reprends un peu ce que vous avez dit. Il y avait un moment donné, donc il y avait d'abord un conflit avec l'Occident, l'Allemagne. Sachant que j'ai simplifié, mais en tout cas, le bloc de l'Ouest et l'Allemagne, je simplifie là-dessus. Et il y a un moment donné qui a été un peu clé, c'est quand, je ne sais plus comment s'appelle ce célèbre général allemand, a été parachuté en Angleterre et qui voulait négocier. Question, est-ce qu'on aurait pu négocier avec un régime qui détenait une certaine vérité, qui est bizarre quand même comme vérité, hein, mais est-ce qu'on aurait pu négocier, dialoguer? Lui, il était là pour dialoguer. Bon, je ne sais pas si c'est passé comme ça, mais est-ce que ce dialogue aurait pu avoir lieu? La deuxième chose, toujours sur ce conflit-là, bon, en compte, l'Allemagne perd, tant mieux. Et puis là, il y a un conflit entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et la résolution du conflit, c'est la guerre froide. Vous êtes chacun, on est chacun de son côté. On se fait vaguement peur, mais on est chacun de son côté.
Non, c'est réellement peur.
Oui, on se fait énorme de mais assez, non, mais enfin, si on reprend un petit peu en. À Yalta, on ne se fait pas encore peur à ce moment-là.
Oui, bien sûr, oui.
À Cuba, on se fait peur, mais à Yalta, moi, je ne suis pas un historien, mais globalement, il y a eu quelques années avant de se faire très peur. Donc, on est chacun de son côté, on a chacun sa vérité, avec cette perturbante que de chaque côté, il y en a qui ont envie de vivre de l'autre côté. Les communistes, même s'ils ont été un petit peu éliminés, mais disaient non, mais. Ma vérité de vie, pas de frontières, parce que vous parlez des frontières, elle est plutôt tout est un commun, hein, le commun est partout, enfin, bref, etc. Et il y a de la vérité qui est plutôt, on va dire, sur la libre, enfin bref, une autre philosophie de vie. Mais en tout cas, on dit, voilà, bah, comme on ne peut pas trouver un point commun de vérité, on met ce qui est devenu un atmosphère, mais en tout cas, on se sépare et chacun sa vérité, puis on est côte à côte et on se démerde comme ça. Puis quand on ne s'entend pas, on prend la femme des idées en Afrique pour s'arranger. Quoi. Mais globalement, et c'est ça qui a été cassé en fait avec la chute du mur. Donc, trouver cette notion de dire qu'il y a une vérité commune, je ne vois pas en quoi, même si économiquement la vérité du bloc de l'Est est effondrée, mais en quoi cette philosophie ou cet idéal qu'il y avait, qu'on a connu un peu dans la commune, qui n'est pas tout à fait quand même, mais qui est quand même inspiré, n'était pas une bonne vérité. Et le fait de dire qu'il y a deux champs de vérités différentes qui vont vivre côte à côte, c'était des fois la solution, ils n'ont pas trouvé un point commun. Enfin, en tout cas, ça m'interpelle sur ces résolutions. Ouais.
Le fait que le mur tombe à Berlin ne signifie pas que, l'idéologie communiste est tort.
Ouais.
Okay. Monsieur, vous leviez la main.
Ouais.
Peut-être un petit peu plus fort pour qu'on vous entende.
Je trouve qu'en fin de compte, c'est idéologie et ces mouvements culturels servent à déguiser parfois un simple instant de prédation. Vous comprenez un petit peu, genre en fin de compte, on va trouver des motifs légitimes entre guillemets. Mais la prédation, c'est la simple prédation, on va dire. Dans tout, si on en revient à la base de base, c'est un instinct primaire. Je suis obligé de rester là-dedans. J'ai pas une vision pessimiste, mais prenons l'argent, c'est quoi? C'est une purgation des passions, si je peux dire ça comme ça. C'est comme une façon de calmer les ardeurs et les instincts des gens. Le business, l'argent, le commerce, c'est ce qui va, malheureusement, peut-être, je sais pas si je peux dire ça, résoudre les conflits. Donc voilà, on ouvre encore du gaz, par exemple, enfin bon, bref. Et de toute façon, ça tient ce propos, il est évolué d'ailleurs. C'est parce qu'il a su communiquer avec l'étranger, avec ceux qui venaient sur son territoire et tout ça. Après, je pense qu'on peut vraiment apprendre à accepter l'autre, mais il y a aussi beaucoup de rancœur. Le conflit naît de la rancœur. Ça aussi, c'est compliqué. On n'arrive pas à sortir de la rancœur, de cette vengeance. Je pense qu'il y a beaucoup, plusieurs intérêts personnels qui ensuite vont soit s'alimenter entre eux et exploser, soit.
Dans deux idées, quoi. La première idée, il y a une prédation qui est naturelle. Et puis la deuxième idée, il y a des motifs ou des motivations psychologiques qui sont liées à, vous appelez ça la rancœur, au désir de vengeance. C'est-à-dire que lorsque mon identité me semble, ce qu'on appelle les luttes pour la reconnaissance, si on veut donner un nom à ça, lorsque mon identité me semble attaquée, bafouée, fragilisée, offensée, et donc j'ai ce sentiment d'aliénation qui fait qu'à un moment donné, certes, il y a la politesse, certes, c'est un point qu'on n'a pas encore évoqué, il y a la loi, l'existence de la loi. La loi, c'est bien ça, c'était pour arbitrer le conflit, soit pour le prévenir, soit pour l'arbitrer, soit pour le sanctionner lorsque on déclare que l'un est coupable et que l'autre est victime. Mais, si je traduis ce que vous dites, au fond, là, dans le très fond, il y a la rancœur, quoi. Et que les paroles du philosophe, l'amour, le dialogue, la vérité, on est tous des frères et tout, enfin bref. Ouais. Monsieur et madame ensuite. Ouais. Ah, monsieur, madame, ok. Ouais. Allez-y.
Je rebondis sur le fait que monsieur vient de faire expliquer, je pense que. Non, ça.
Moi, c'est bien.
Fonctionne, d'accord. Espérons que ça dure. Moi, je dirais qu'il y a eu dans le cadre du conflit avec Poutine, on va le nommer. Hein. Déjà, c'est un conflit qui implique tout le peuple, mais c'est plutôt le dirigeant qui a agressé. Bon, je ne vais pas être gentil, mais c'est quelqu'un qui a subi, a priori, des vexations, des humiliations, pour ne pas les citer, de certains présidents américains, d'autres, etc. Alors, c'est pas une excuse, par contre, pour réagir comme ça, mais c'est pas quelqu'un qui a une grandeur d'âme. Là, on parle de valeurs de gens qui sont plus rationnels et qui n'appliquent pas leur ego, qui ne sont pas en répondant immédiatement dans la violence et tout. Là, tout ça, c'est fini, là. Il est dans la violence, Il a préparé ce concours en plus.
Voilà, c'est ça. C'est
il a préparé, c'est-à-dire que ça venait finalement
accentuer la violence.
Voilà,
on a une raison qui se met au service. Ouais.
Et ça a éclaté. Et certains pays auraient vu venir le conflit. Ça, moi, je ne suis pas spécialiste, pour, je ne suis pas géopoliticien. Hein. Mais je pense que ça c'était déjà dans, sournois, et ça a éclaté. Et ce qui a. Alors après, on prend des prétextes. Effectivement, on prend des prétextes que c'est pour accéder à la mer noire, pour accéder à des ressources, que ce sont telle ou telle. Pour moi, c'est faux. C'est vraiment les bases instincts
d'un
dirigeant qui entraîne son peuple et qui a préparé en se mettant de. Comme on faisait au Moyen-Âge, autrefois, il y avait les seigneurs et il les implique avec lui pour faire tout ça, il s'entoure. Donc c'est vraiment de la méchanceté. Enfin, c'est la méchanceté.
Non, on revient à la notion de mal, ça veut dire. Monsieur ?
Ouais. Il y a avec le micro.
Il faut parler comme ça, je pense.
Comme ça ?
Ouais, je crois que ça marche pas trop mal.
C'est mieux ? Bon. En tout cas, je vais prendre un peu le contre-pied et faire remarquer que toutes les notions de combat, de ce vocabulaire de conflit, c'est un vocabulaire qui est assez valorisé. La lutte des classes, les conflits sociaux, combat pour l'égalité hommes-femmes, etc. Donc, on dit, est-ce que le conflit, c'est pas un truc aussi qui est productif et qui peut aussi faire avancer des choses, décoller la pulpe du fond et... Voilà, donc, le fait qu'il y ait des désaccords, c'est bien, ça s'exprime. Après, par rapport à la notion de vérité, c'est mieux de reconnaître il existe plusieurs vérités et que chacun, comme dit Pirandello, a chacun sa vérité, mais plutôt que de chercher une vérité unique qui me semble être un concept totalitaire. Mais plutôt accentuer sur voilà, il y a des bons combats, il y a des bons conflits, il faut être du bon côté de l'histoire, et il y a des fois où il faut se retrousser les manches pour faire bouger les choses, il me semble.
Ouais, donc le conflit, on n'y échappe pas, et parfois, il faut non seulement l'accepter, peut-être en référence à ce que vous disiez, monsieur, sur l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, lorsque il s'agit de dialoguer ou de faire jouer la diplomatie avec les nazis, en fait, non. Enfin, nous aussi, mais... quand tu vas... tu vas voir Churchill, en fait, non. Il y aura du sang, il y aura des larmes, c'est ce que je vais vous promettre, hein, moi, du sang et des larmes, mais on ne négociera pas avec les nazis. Parce qu'on ne négocie pas avec une idéologie mortifère. Et... on va accepter, non seulement on va accepter le conflit, mais on va même le faire monter en puissance. On va se retrousser les manches, comme vous avez dit, et puis on va pleinement s'investir dans le conflit. Et donc effectivement, la question c'est, alors on dévie un petit peu par rapport à votre question initiale, savoir si le conflit il est consubstantiel à la nature humaine, à l'instinct de prédation, à l'ego, aux luttes pour la reconnaissance, ça c'est un premier point. Savoir si on peut essayer de le dépasser, comment... Il y a des points qu'on a évoqués sur le dialogue, d'autres points qu'on n'a pas encore évoqués, notamment sur la question politique, de la loi, de la question de la morale. Et puis, il y a l'autre point, c'est est-ce qu'il faut renoncer au conflit ? Est-ce que le conflit, une phrase d'Héraclite, qui est un vieux philosophe du 6e siècle avant Jésus-Christ, le conflit est le père de toute chose, dit-il. Et voilà, le conflit, c'est la vie. Le conflit, c'est ce qui nous permet de ne pas baisser la tête. Et c'est ce qui nous permet de construire.
C'est-à-dire que c'est facteur d'évolution. On va dire que la société, les conflits sociaux sont facteurs d'évolution. Le droit des femmes, des handicapés, homosexuels. Ouais.
S'il n'y a pas de conflit, on ne défend pas ses acquis. On défend soit ses acquis, on ne défend pas ce à quoi on est en droit de prétendre.
Par rapport à la
je vous laisse la parole juste après. Juste, on essaye d'en donner la discussion. Madame, qui, vous demandiez la parole tout à l'heure. Et je vous la redonne après.
Ça ne serait pas ça la vérité de voir que dans tous les conflits, tous les instincts, tous les égos sont en jeu. Et de voir ça, tous ces mécanismes à l'œuvre, il n'y en a pas un qui soit vraiment si légitime que ça. Parce qu'il n'y a aucune
avancée qui a été faite sur une dispute. Au bout d'un moment, ça finit en queue de boudin. Donc la vérité, ce ne serait pas de voir justement tous les mécanismes qui sont à l'origine de cette chose qu'on appelle le conflit. Les mécanismes, mais la pensée derrière la pensée, c'est-à-dire les mécanismes profonds.
Ouais, ben on est avec et les hypothèses freudiennes ou avec de la psychologie, mais là.
Je... Non, parce que c'est vraiment évolutif, parce que je trouve qu'au final, il y a plus de souffrance qu'autre chose, parce que même regardez le mouvement MLF. Bon, il y a des gens qui se sont battus pour les droits des femmes. On a obtenu quoi ? Que ce mouvement est complètement disharmonieux maintenant, qui ne veut plus rien dire. Et ça peut dire une guerre contre les hommes. Enfin bon, je veux dire, voilà. C'est-à-dire que l'énergie, elle a mal fini.
Je ne suis pas absolument certain de partager votre point de vue, mais...
C'est comme si on
disait... C'était monsieur. Et après, c'est vous. On essaie de... Ça vient, ça. Oui, bien tranché.
Ah, pas trop près. C'est compliqué à prendre la technique du micro. Oui, donc pour rejoindre monsieur, la vérité, je trouve que par rapport aux droits des femmes, c'est que les mentalités des hommes ont changé, de la société ensemble, et tout le monde est d'accord pour ça. Ce serait ça la vérité, quoi. Tout le monde est d'accord sur le fait d'avoir les mêmes droits. D'accord. Ce genre de point-là.
Madame, oui.
Ce que je voulais dire, c'était qu'on a l'air de dire que le conflit est nécessaire pour faire avancer les choses, mais la vraie question, ce serait pourquoi les choses ne peuvent pas avancer sans conflit. Et là, est-ce que c'est effectivement de notre nature, c'est-à-dire qu'il faut toujours un conflit pour faire avancer les choses? Ça revient à dire la question, est-ce qu'il y a des guerres justes? C'est-à-dire que ça paraît une aberration, mais on a des fois l'impression qu'on ne peut pas faire avancer les choses, sortir du nazisme, sans accepter la guerre. Voilà. Et jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut détruire, parce que quelque part on a un sens de la vérité qui ferait qu'on sait qu'il faut en passer par là pour sortir de la barbarie. Donc c'est antinomique en fait.
Oui, le bombardement de Dresde, c'est 100 000 morts. Et ce sont des bombes américaines, alliées.
Exactement.
Voilà. Mais Hiroshima, c'est 100 000 morts et plus.
Comme si c'était nécessaire. Et jusqu'à présent, l'humanité n'a pas réussi à se dire comment on peut éviter ça. Si on sait où il faut aller, comment on peut éviter ça quand même?
Alors peut-être qu'on peut faire l'hypothèse, à mon avis, ça sera l'une des thématiques que Mme Boyer évoquera dans sa conférence, d'un conflit et d'une lutte qui n'en passe pas nécessairement par le recours à la violence, c'est-à-dire une forme d'action. Une forme d'action. Il ne s'agit pas de renoncer ni à ses droits, ni à ses combats, ni à son identité. Ce n'est pas de la résignation, et ce n'est pas non plus de la lâcheté. On ne serre pas la main d'Hitler à Rotonde. Mais une forme de lutte, c'est peut-être encore un peu utopique, mais j'ai le nom de Jean-Marie Muller, qui est un philosophe, qui était un philosophe de la non-violence, qui défend cette idée de vivre le conflit, il faut du conflit, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Vous parliez, monsieur, de conflits d'intérieur. On peut parler des conflits envers soi-même et envers les autres. Mais penser une forme d'action non-violente qui soit tout aussi efficace, parce que le problème du recours à la non-violence ou du dialogue, c'est soit de passer pour des utopistes, et on rigole, on ricane, et Vladimir Poutine il rigole dans son coin, soit pour des personnes qui n'emploient pas les bons moyens. Et qu'à un moment donné, il faut bien accepter d'avoir les mains sales, comme dirait Jean-Paul Sartre, voilà, et puis plonger les mains dans la merde et dans le sang, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Sartre. Mais peut-être qu'on pourrait imaginer des luttes ou des conflits qui n'en passent pas par des stratégies de violence, ou d'attaque directe envers des personnes. Pour la justice climatique, pour la défense des droits de tel ou tel type de communauté, soit des minorités, soit d'une forme du vivant en général, enfin bref, pour n'importe quelle lutte, essayer de trouver des stratégies qui acceptent la lutte, qui acceptent le rapport de force, parce qu'il y a des rapports de force, il y a des intérêts en jeu, vous les avez évoqués, la prédation, etc., qui acceptent les rapports de force, mais qui n'acceptent pas les moyens violents de parvenir à ce que l'on tente de faire.
Et les dommages collatéraux.
Et les dommages collatéraux. Si on prend l'action, vous parliez de la lutte des femmes pour l'égalité femmes-hommes, il y a eu des formes de violence avec le suffragette, il y a eu des formes de violence. La plupart des actions sont des actions qui sont non-violentes. Il n'y a pas eu de meurtre, d'assassinat ciblé, de guérilla qui soit menée, etc. Et pour autant, je suis pas sûr de partager votre point de vue, que je trouve un petit peu, enfin voilà, un peu pessimiste. Pour autant,
c'est pas, on n'est pas dans un monde parfait, on n'est pas dans un monde idéal, on peut noter une certaine évolution en termes de droit, du point de vue de la loi, et en termes de représentation culturelle ou des mœurs, pour le dire de manière un peu large.
Il y a eu beaucoup de problèmes.
J'ai pas entendu, pardon, monsieur. Oui, Einstein, voilà. Ouais. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Mais c'est tout le débat qui a traversé des siècles et des siècles. Si on veut reprendre le dernier siècle, le XXe siècle, c'est l'opposition entre un Martin Luther King et un Malcolm X sur la lutte pour les droits civiques des Africains-Américains. On est avec un discours effectivement sur la vérité, alors, pour le coup avec Martin Luther King, il y a une vérité, on est tous frères, enfin, il y a des discours magnifiques, vraiment magnifiques. Et Martin Luther King, c'est pas du tout la résignation, c'est on va lutter les gars, on y va, mais on va y aller par la voie, par le boycott, par des sit-ins, par je refuse de payer mes impôts, enfin voilà, Rosa Parks et autres. Et puis vous avez la voix Malcolm X en disant mais non, en fait on n'arrivera à rien comme ça, parce qu'au bout du bout finalement c'est toujours les blancs qui ok tu vas voter, c'est très bien, et finalement à la fin tu perds toujours quoi, à la fin c'est toujours un flic qui va t'arrêter et qui va te mettre une balle dans la tête parce que t'as pas la même couleur de peau. Et donc voilà, est-ce que Martin Luther King, est-ce que c'est un utopiste, sa voix c'est une impasse, la preuve c'est qu'il se fait assassiner, ou est-ce que, et donc il faudrait aller du côté de la lutte armée. Ou est-ce qu'au contraire, on peut prendre peut-être la stratégie du temps long ?
Oui, mais c'est ce qu'a démontré Mandela, en quittant la violence pour accéder à...
Voilà, la stratégie du temps long, en disant, bah, peut-être pas moi, pas ma génération, peut-être pas mon fils, ma fille, mais... Voilà. Monsieur. Sauf que face aux nazis, le temps long...
Il y a plusieurs choses. Je suis désolé, je suis un peu confondu avec. Oui. En fait, là, on parlait de conflit, et là, on parle de conflit violent. Et en fait, à travers ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a du conflit nécessaire et pas violent, et le problème, c'est le conflit de l'ordre. Donc la question, on est en train de se
centrer... C'est ce que j'ai...
C'est on est en train de se poser ouais. Sur le conflit violent.
Ouais. Le conflit violent. C'est dissocié conflit et violence.
D'accord. Alors, je vais revenir sur le conflit violent, qui aura peut-être un rapport avec la prochaine conf. Mais avant, juste, il y a quelqu'un qui a dit « le conflit fait avancer les choses ». Les conflits ne font pas forcément avancer. On va voir si l'innovation fait avancer beaucoup plus les choses que le conflit. Dans l'histoire, c'est les grandes innovations qui ont fait avancer le monde et enfin, progresser donc, socialement, etc.
Qu'est-ce que vous mettez sous innovation ?
Les innovations
techniques ?
L'aspirine, l'internet, la mécanisation, etc. Ouais, ces grandes innovations.
Les inventions, innovations techniques.
Après, sur la question du conflit violent ou pas violent. La prochaine conf est un peu là-dessus, puisque se pose la question, notamment dans les jeunes qui ont fait le refus civil, sur la radicalité par rapport au changement climatique. Donc la question, est-ce qu'on peut changer pour réformer, en fin de compte, est-ce qu'on peut changer progressivement les choses à travers des conflits, ou alors, à un moment donné, ça ne le fait pas, quoi. C'est un peu ce qu'a fait Greenpeace. On rentre dans un degré un petit peu plus violent pour faire passer... Il y a eu de la violence assez forte quand même.
Ils ont subi.
Oui, enfin, ils ont subi de la part de la France. Mais si on élimine ce petit sujet-là qui a raté, globalement, les attaques de bateaux à un moment donné, c'était un peu violent. Et Greenpeace anglais, enfin, était très violent. Bon, bref, la question, c'est à un moment donné, pour faire plus avancer les choses, si on prend que le conflit permet de faire avancer les choses, des fois, il faut rentrer dans la violence et se pose aujourd'hui sur les mouvements. Écologique et aussi sur les mouvements de décroissance, etc. Est-ce qu'il faut être beaucoup plus radicaux ? C'est une question qui se pose dans tous les cercles. J'en côtoie quelques-uns. Donc, la question est très très forte en ce moment. Il y a les plus violemment, comme il y a eu il n'y a pas très longtemps, avec la désobéissance civile, avec les mouvements, comme je ne sais plus comment ils s'appelaient, là, qui cassaient un petit peu tout en Angleterre. Je ne sais plus leur nom. Enfin, ouais, ils sont connus. Vous savez, qui se mettaient dans la rue et qui empêchaient toutes les choses de se passer normalement.
Oui.
Franchement, oui. Et donc, qu'est-ce que dans le conflit, il faut, pour faire avancer plus vite, il faut rentrer dans la violence, comme dans une guerre, c'est aussi.
Ouais.
C'est aussi moyen d'aller plus vite.
Moi, je pense qu'on je laisse la parole, pour réagir, mais.
J'ai pas de.
Je pense qu'il faut peut-être s'entendre aussi sur ce qu'on entend par sous le vocable violence.
C'est-à-dire que, certes, il peut y avoir des violences symboliques, certes, il peut y avoir des violences indirectes, empêcher quelqu'un de traverser la rue, empêcher quelqu'un d'aller de se rendre sur son lieu de travail, etc., c'est une violence. D'accord ? Mais on attaque et on agresse pas aucune personne, ni dans son corps, ni dans ses reconnaissances ou appropriations effectives. Autrement dit, il n'y a pas de coup rendu et il n'y a pas de comment dire, d'humiliation qui soit perpétrée. Si je prends un autre exemple contemporain qu'on a vécu un peu cet été, lorsque des militants écologistes radicaux, est-ce qu'ils sont violents ? À mon avis, non. Vont sur des terrains de golf au moment où, par sécheresse, il est interdit d'arroser, etc. Et vont bétonner des greens de golf ou y planter symboliquement quelques légumes, d'accord ? Ou même, voilà, bétonner le terrain de golf. Est-ce qu'il y a une attaque à la propriété privée ? Oui. Personne n'aimerait qu'on aille faire ça dans son jardin. Est-ce qu'on peut parler de violence ? Voilà, c'est là où il y a débat. Est-ce que cette action-là, est-ce que c'est une violence ? Est-ce qu'on a pris quelqu'un ? Est-ce qu'on l'a martyrisé ? Non, on a simplement, et on a après diffusé, on a médiatisé, l'idée selon laquelle il y avait un sport, une pratique qui, en majorité, est réservée à une frange, comment dire, pas que, mais une frange favorisée de la population qui occupe une part des réserves d'eau pour arroser une partie d'un grain de golf. Est-ce qu'il y a violence ? C'est ça, en fait. Est-ce que empêcher quelqu'un de traverser la rue ou d'aller à Place d'Arc, parce que c'est un centre commercial qui nourrit le dérèglement climatique, admettons voilà, qu'on bloque l'accès à Place d'Arc, est-ce qu'il y aurait violence ? Il y a conflit, il y a lutte. Oui. Est-ce qu'il y a violence ?
Il y a une violence à partir du moment où dans l'absolu, on attend quand même à la liberté de certaines personnes. Après, ce que ces gens-là font par liberté, jouer au golf, ou ceci-là, ça peut se discuter. Mais peut-être là, le dialogue peut faire qu'on peut peut-être jouer au golf aussi sur un terrain un peu râpé et pas très bien, enfin pas très vert, etc. Les règles du jeu changeront peut-être un peu. Mais c'est là où il y aurait ce dialogue. Mais la violence, elle existe quand même à partir du moment où quelqu'un est empêché de faire ce que l'on espère. Enfin, on est là pour dire liberté, égalité, fraternité. Donc, que chacun est libre, à la limite, à partir du moment où il n'attend pas à son voisin, de faire ce qu'il veut et ce qui lui plaît, si ça ne gêne personne. Jouer au golf, ça ne gêne personne. C'est des gens peut-être riches qui jouent. Bon.
Pas
ils ne peuvent jouer que sur des surfaces très engazonnées. Peut-être qu'il faut qu'ils apprennent à jouer sur des surfaces moins arrosées et que comme ça, voilà, tout le monde est content. Mais il y a quand même une violence à partir du moment. Et puis en plus, là, arrive l'aspect de classe sociale. Bon, c'est encore ça rage.
Oui, voilà. Il y a d'autres éléments qui sont au-delà du thème qui nous réunit ce soir.
Mais ça nourrit des conflits, malgré tout.
Des rancœurs, mais pas forcément la violence. Alors. Non, c'est monsieur et monsieur. Demandez la parole, on comprend bien.
On arrive à la question de la loi. Parce que la liberté des uns, enfin, la liberté n'est pas totale dans une société, on n'a pas le droit de tout faire. C'est pas ma liberté, tout à fait dessus. Je suis d'accord. Donc peut-être que des gens qui font des actions d'entrave à la liberté créent une loi, en fait. On ne va pas à faire ça parce que c'est délétère pour l'environnement. Où on joue au golf pour les mêmes raisons. Donc, en fait, par une action militante, on va créer une loi. C'est un peu une grève, c'est ça aussi. Et on ne va pas travailler à ce prix-là. Hein, c'est-à-dire qu'on crée une loi provisoire, et ça marche pas, mais et contrairement à ce qui était dit, ça a fait évoluer les choses. Le Front populaire, ça a fait des choses. Le mai 68, ça a fait des choses. Il y a eu des choses qui ont évolué derrière les conflits. Après, on aurait peut-être pu se dispenser de...
Des gains de salaire, tout simplement. Enfin, sur les accords de Grenelle, c'est des gains de salaire en 68.
Oui, et puis on peut remonter le travail des enfants ou des choses comme ça. Donc, voilà.
Monsieur,
on
revient sur
la loi qui change parce que, qui détermine les libertés.
Non, mais il y avait monsieur qui avait.
Oui, qui change la loi, qui change parce qu'il y a une action conflictuelle qui s'est déroulée.
Monsieur, oui.
Alors, De même que tout à l'heure, on se posait la question sur y a-t-il des guerres justes ?
Ça sera un autre débat. Hein. Oula.
Ça sera un autre débat, mais à ce moment-là, on peut aussi se poser la question par rapport à ce que vous disiez avec l'exemple du terrain de golf. Il y aurait des violences justes aussi, peut-être. Et je fais un petit retour en arrière. À une époque, on a parlé des conflits sociaux. Dans notre pays, on a une culture de grève, de conflits, négociations, etc. À un moment donné, on mettait souvent en avant l'exemple allemand où il semblerait que les négociations étaient en amont du conflit. Et puis, un dernier mot, quand il y a un conflit, c'est très simple. Tout à l'heure, je sors. Je me fais agresser parce qu'on veut me dépouiller. Alors, il y a plusieurs solutions. Ce qu'on m'a conseillé, c'est si je peux fuir, je m'enfuis. Autrement, c'est la reddition. Prenez tout ce que vous voulez, les clés de voiture, tout. Autrement, on peut aussi entrer en résistance. Et puis là, après, c'est la loi qui pourra juger si la résistance que je pose est proportionnée ou pas à l'attaque que j'ai reçue. La loi finit par trancher et décidera s'il y a légitime défense ou si je suis allé un petit peu fort avec là ou les personnes qui m'ont agressé.
Oui, monsieur, vous vouliez tout à l'heure, je vous ai. Monsieur, pardon. Je vous ai interrompu et.
Non, je ne sais plus.
Non, désolé. Est-ce que vous vouliez réagir à l'intervention de...
Non, c'est pas.
Non, c'est bon. Oui, si on veut un peu creuser sur l'idée de loi, si on part du principe que la vérité, elle n'est pas de ce monde, ou alors c'est un discours utopique qui vaut pour un professeur de philosophie ou autre, mais qui aura bien du mal à s'incarner, si on part du principe que le dialogue, c'est souvent difficile, voire impossible à mettre en place, qu'est-ce qu'on s'est donné ? On s'est donné une règle commune. Une règle commune de cohabitation. Ouais. Parce que nous sommes nés par un instant de prédation, parce que, je vous laisse la parole, madame, j'ai vu votre mal. Parce qu'il y a l'ego, parce qu'il y a toujours cette volonté de se faire reconnaître dans ce qui compte pour nous. Et on s'est donné cette règle commune, ce nomos, diraient les Grecs, et ce qu'on appelle la loi. Et la loi, finalement, quelle qu'elle soit, c'est simplement la façon dont une communauté se donne une règle du jeu, de façon à arbitrer ce qui est en jeu, ce qui est hors jeu, ce qui est permis, ce qui est licite, illicite, sanctionnable ou au contraire recommandable. La loi, donc, elle interdit, elle prescrit et elle autorise. Et finalement, toute la question, c'est finalement... Et ça marche. Ça marche la plupart du temps dans nos vies. Nous respectons, pour l'immense majorité d'entre nous, c'est un peu l'une des idées qu'on aurait pu évoquer avec votre proposition, là où les lois, nous sommes des citoyens en ce sens assez serviles, si on veut être un peu méchant, mais en tout cas, nous sommes des citoyens obéissants. Et la plupart du temps, nous, parce que nous avons peur de la sanction ou parce que nous sommes soucieux de l'intérêt général, admettons, en tout cas, on respecte la loi. Et la loi, elle nous permet soit de prévenir le conflit, les conflits sont relativement finalement rares, si on voulait faire la somme de toutes nos rancœurs, on passerait notre temps à se taper dessus. Donc soit elle nous prévient le conflit, soit elle arbitre. Et je sais que celui qui m'a agressé se retrouvera, si tout va bien, derrière la barre d'un tribunal et le cas échéant, déclaré coupable et donc avec une sanction adéquate. Les crimes de guerre de Vladimir Poutine, on verra, hein, le conflit n'est pas terminé, ils seront peut-être jugés, et Dieu seul, pour l'instant, on ne sait pas où sera sa place. Sauf que, je vous laisse la parole dans un instant, sauf que le problème, c'est la loi. Le problème, c'est qui fait la loi ? À qui profite-t-elle ? Est-ce que la loi, c'est vraiment l'expression de la volonté générale, comme le dirait Rousseau, ou est-ce que c'est l'expression déguisée de la volonté générale qui sert les intérêts de la classe dominante, si on voulait avoir une vision marxienne, marxiste de la chose. Mais même sans entrer dans toutes ces considérations qui sont un peu au-delà du thème initial, qui fait la loi, à qui profite-t-elle? Et puis, surtout, est-ce que toute action qui serait illégale, je reprends Montgolf, où on pourrait prendre des actes historiques emblématiques, est-ce que toute action illégale est nécessairement condamnable? Est-ce que toute action illégale est synonyme de violence? Est-ce que des suffragettes qui balancent des pavés dans les vitrines, c'est illégal? Est-ce que c'est une violence? Est-ce que le fait même que ça soit illégal, ça signifie qu'il y a de la violence et qu'elles doivent être sanctionnées? Est-ce qu'une Rosa Parks qui refuse de céder sa place à un homme blanc dans son bus de Montgomery, c'est illégal, mais est-ce qu'elle fait une forme de violence? Ben oui, elle empêche un homme de s'asseoir là où il a envie de s'asseoir, et là où la loi, ou le droit, pardon, le règlement intérieur, c'est pas une loi, là où le règlement intérieur de la ligne de bus de Montgomery l'autorise à s'asseoir. Donc finalement, est-ce qu'on peut vraiment penser une sorte d'adéquat, enfin de synonymie entre illégalité et tort envers autrui, tort envers ceux que le droit autorise à. Cet été, il y avait bien restriction d'eau pour l'immense majorité de la population et il y avait dérogation. Il y a dérogation pour les golfs. Donc quand un propriétaire de golf arrose une partie de son green, pas tout, mais simplement la partie où on doit mettre la petite boule, machin, il ne fait rien d'autre que de respecter la loi. Il a une dérogation. Oui, madame, excusez-moi, je ne vous ai pas laissé la parole. Oui.
Bon, en fait, ouais, ça devient très compliqué. Mais moi, je pense que la vérité, elle est d'instant en instant. Et que quelque part, dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel lieu, il y a quelque part dans l'être humain une conscience, quand il se voit agir, il sait parfaitement, ou il le sait après, si c'était juste ou pas, dans sa conscience. Et en fait, la vérité, elle est à ce niveau-là, dans les moyens. Si elle était juste dans les moyens qu'il a utilisés. Il y a une espèce de conscience qui est très très lointaine, qui remonte, ça peut intervenir un mois après. Ou... Moi j'ai déjà observé ça plusieurs fois, mais pour n'importe quoi. Quand on agit, c'est-à-dire que la première raison elle est très légitime, mais dans le moyen, on sait très bien quelque part, très au fond de soi, que voilà, c'est pas très pertinent, c'est en tout cas comme ça.
Ou alors on peut se dire, j'avais pas d'autres moyens.
Non, parce que ça peut être une raison aussi, parce que qu'est-ce qu'on en sait qu'on n'avait pas d'autres moyens? En fait, c'est ça, c'est cette espèce de conscience.
Face au nazisme, est-ce qu'on a d'autres moyens? Face, je prends un autre exemple historique, une guerre d'indépendance, la guerre d'indépendance algérienne, on est avec un colon qu'on appelle la France qui refuse tout dialogue. Est-ce qu'on a d'autres moyens que de prendre les armes?
Là, c'est pertinent. La vérité, elle est d'instant en instant selon un contexte, en fait. Et il y a beaucoup de contextes où on sait très, très bien qu'on a agi quelque part. Bon, voilà. Mais il y a des contextes où c'est très légitime. Il faut sentir cette notion de vérité parce qu'elle change dans le contexte. Elle n'est pas la même. Elle est d'instant en instant, en fait.
Ouais, dans l'ordre.
La légitimité, la pertinence, d'accord. Mais à quel moment quelque chose est pertinent, à quel moment quelque chose devient pertinent? Comme vous parliez tout à l'heure de dérogation à la loi. Je dirais qu'à partir du moment où il y a dérogation et dérogation et dérogation, c'est que la loi ne convient plus.
Bah, la loi, elle autorise, elle nous dit, bah voilà, les golfeurs, ils ont le droit de golfer et ça dit golfer, pratiquer le golf. Je suis expert en golf. Ils ont le droit donc de pratiquer leur activité, et pour pratiquer leur activité, bah, il faut quand même un minimum de terre arrosée, donc
on y va. En dehors de l'intérêt général, la loi elle est quand même pour faire respecter.
La dérogation, elle vise toujours un intérêt particulier, mais d'accord.
Voilà, et après, à partir du moment où on est obligé de donner beaucoup de dérogations, c'est que la loi, par rapport à l'intérêt général, elle ne correspond plus, puisqu'il y a trop de cas particuliers, c'est que la loi ne peut plus s'appliquer. Donc il y a quelque chose qui ne va plus, là. Et puis quand vous parliez tout à l'heure de la pertinence et de savoir au fond de soi, ça voudrait dire qu'il y a une morale quelque part qui s'imposerait.
Non, mais par exemple, pour le golf, pour l'histoire du golf et l'eau, c'est un manque de bon sens. Donc c'est pas justifiable par des dérogations. Quand on manque d'eau, on manque d'eau, mais on va pas privilégier un jeu parce qu'il y a une urgence.
Mais il y a quand même des gens qui ont dit qu'il y a des gens qui se sentent au-dessus des lois, on dit cette expression au-dessus des lois, et une partie des golfeurs peut-être en font partie. Et
j'en sais rien, attention, il ne faudrait pas que le café philo se transforme en tribune anti-golf. Hein. Marie-France, vous demandiez la parole, madame et monsieur. Marie-France, elle est 20h27.
par rapport aux actions illégales qui peuvent être des actions justes, je repensais à Cédric Héroux et à Pierre-André Mannoni qui ont prêté assistance à des migrants en contradiction totale avec la loi. Et il a fallu l'intervention et la réflexion, alors je ne sais plus si c'était le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, mais on a reconnu que la solidarité était au contraire de valeur constitutionnelle.
N'était pas un délit.
Mais au moment où ils ont agi, ils étaient dans l'illégalité et c'est a posteriori que les plus hautes instances juridiques de l'État leur ont donné raison.
C'est là, c'est la désobéissance à la loi qui fait évoluer ce que vous disiez à un moment donné, la loi. Voilà. Alors dans l'ordre, je crois que c'était... Alors, Madame, oui, et puis monsieur.
Quelques réflexions en fait. Sur la question de l'eau et de la gestion de l'eau...
C'était un exemple, hein. Non, mais... On va encore taper sur les golfeurs.
Parce que il y en a été question plusieurs fois cet été. Et, j'ai en mémoire cette information qui a été donnée à un moment donné. C'est que des maires, un maire en tout cas, d'une commune de la France... Et avait installé un système de rationnement dans la journée. Enfin, moi, j'avais arrêté de prendre de l'eau, parce que j'avais plus, quoi. Mais ça posait problème d'un propriétaire qui était d'étranger, en fait, enfin, d'étranger, je veux dire, des Belges, ou des Anglais, que sais-je, qui sont des touristes, donc, et qui habitent dans une maison, mais qui, eux, utilisent des quantités d'eau invraisemblables. Et personne n'allait leur dire d'arrêter. Et alors, à un moment donné, les gens qui devaient couper l'eau n'osaient pas y aller. Et donc, c'est le maire qui est allé. Bon, dans la façon dont j'étais rapportée la chose, on comprenait que tout le monde avait marché sur des œufs parce qu'on ne savait pas comment faire pour arrêter. Bon, je rapporte ça parce que, quand même, ça va avec l'exemple du golf. Donc, on comprenait comment, pour irriguer un golf, on a capté de l'eau, qui est de l'eau qui vient des ruisseaux, des rivières, des fontaines, je ne sais pas où.
De l'eau potable en plus.
Potable, naturelle, et qui est bien commun quand même. Bon. Alors, qui. Enfin, là, on en revient à notre histoire de tout à l'heure, et peut-être une histoire de tous les deux, c'est-à-dire qui a initié la violence. Alors, et puis, autre réflexion, à propos de la loi et de la façon dont elle est faite. Moi, je pense juste à la question de la possibilité que la modification du passage à la retraite, enfin des retraites, puisse se faire en douce, si je puis dire, puisque ça puisse ne pas être faire l'objet d'une loi, mais ça puisse passer dans une autre loi, c'est-à-dire la loi dans cette société. Enfin, ça c'est déjà c'est une pratique bien connue, où on lit ces articles.
Oui, mais ça, c'est j'allais dire, enfin, parenthèse, c'est autorisé par la Constitution. Si le gouvernement introduit un amendement à la loi sur la sécurité sociale ou s'il fait passer la loi sur la réforme des retraites par 49.3, il n'y a pas d'illégalité.
C'est peut-être pas illégal, mais ce n'est peut-être pas moral. Et c'est là qu'on retourne à ce que nous n'avons pas besoin de parler des soucis, c'est-à-dire ce terme-là, dans notre affaire, qui aurait été le rapport à la morale. Parce que le recours à la violence, et c'est peut-être pas juste, c'est peut-être pas seulement une question de point de vue, ou de la force. Il y a bien à un moment donné la prise en compte d'un point de vue moral. Et peut-être pour moi, le point de vue moral qui me guide, c'est le fait effectivement que nous sommes des humains, ce que vous disiez tout à l'heure à propos des guerres, et puis l'intérêt général. Ce sont des valeurs qui peut-être sont un peu trop perdues de vue. Mais voilà, c'est la réflexion que je voulais vous donner à l'intérieur.
Merci madame. Monsieur,
oui. En fait, monsieur. Il y a quelque chose que je partage assez en disant la légitimité dépend du contexte. Avec cette notion de légitimité.
Parce que vous disiez, la vérité change à chaque instant.
Voilà, ouais. Enfin, moi j'ai repris la phrase que je trouvais. La loi, c'est quelque chose qui est établi à un moment donné avec qu'est-ce qui se cache derrière la loi, etc. Et il y a cette notion de légitimité. Et après, donc, de combattre par rapport à une loi de façon violente ou pas violente, il y a un conflit parce que la loi ne correspond pas au monde du montant. Les suffragettes sont un exemple assez fabuleux par rapport à ça. Il y en a d'autres. Et la Révolution française, c'est aussi l'exemple. c'est typiquement, on ne peut pas. La Révolution française est intéressante aussi parce que si on n'a pas tout cramé, on n'a pas fait de révolution. Mmh. Il faut tout cramer, il faut rentrer dans un conflit violent, tout cramer. Alors est-ce qu'il faut décapiter tous les mecs au passage ? N'empêche que s'il n'y avait pas eu toutes ces décapitations-là, il y avait peut-être une restauration plutôt. Enfin, je ne suis pas historien, donc je ne vais pas faire l'analyse, mais en tout cas, elle a bien remis à plat les trucs. C'était fondamentalement des conflits qui sont les Girondins avec les Jacobins, enfin bref, etc. Des conflits qui sont additionnés donc, et qui sont devenus de plus en plus violents. On a tout brûlé pour remettre à plat, permettant de renaître les idées. Donc, le conflit violent, parce que c'est un conflit violent, c'est aussi violent que la guerre qu'on vit aujourd'hui, voire peut-être même plus, parce que c'était même méchant.
Bah, il y a quelques massacres. Donc,
on a jeté
des prêtres dans la Loire niveau du pont Jean-Jos V. On en a noyé pas mal.
Aujourd'hui, on se targue, parce que là, on contredit un petit peu, on est en train de dire, ouais, M. Poutine, le machin, enfin bref, etc., cette violence, etc. Mais il y a quand même un pourcentage extrêmement important des Français qui sont super fiers de la Révolution française et tout ce qui a été fait. Donc, de cette violence et ce conflit-là. Donc, d'un autre côté, on va critiquer notre conflit, mais on justifie notre conflit parce que c'est notre identité.
Et elle est même... il est 20h33, mais je me permets sur la... Non, c'est pas ça. C'est que sur la Révolution française, non seulement il y a une fierté nationale, bah, c'est la Révolution française, quoi. Et en même temps, elle est aussi héroïsée, sacralisée. Enfin, l'hymne national français...
Il y a du sang dans les...
C'est un sang impur à Brève-Nossillon. Alors la fête nationale, juste une petite remarque historique, on ne fête pas officiellement le 14 juillet 1789, c'est-à-dire la prise de la Bastille, mais on fête effectivement un an après la fête de la Fédération, c'est-à-dire la réunion du peuple français autour du roi. C'est ça officiellement qu'on est en train de fêter. Par contre, quand on chante la Marseillaise, on chante bien quand même un hymne national qui appelle à faire couler un sang impur.
Juste pour l'histoire, c'est que en fait, le point clé n'est pas le 14 juillet, mais le 13 juillet, ouais. C'est l'enlèvement de la barrière des Batignolles, puisque c'était la dernière barrière qui obligeait l'octroi sur l'ensemble de Paris, c'est ça qui a sauté. Et c'est là que le peuple s'est révoqué. Donc la révolution commence le 13, enfin, le bascement commence le 13 juillet, sur la barrière des Batignolles.
Oui. En fait, j'ai toujours été pour les feux d'artifice le 13. Oui.
Moi, si j'essayais de répondre à la question de tout à l'heure, si c'est. Juste de ne pas enfreindre la loi, c'est juste d'enfreindre la loi dans certaines conditions. Enfin, si j'essaie de reprendre mon raisonnement un peu dans l'idéal, si la vérité n'est pas de ce monde et que la loi l'est, du coup ça veut dire que la loi est forcément quelque part imparfaite, n'est pas vraie sur certains points, et du coup on peut, il y a certains. Il y a certaines situations où c'est bien de la transgresser. Et je sais qu'il y a des anarchistes comme Bakounine qui prônent ça justement, l'illégalisme.
Alors c'est mal chez Bakounine. Vous avez raison, mais chez les anarchistes type Bakounine, c'est pas quelques lois. C'est la loi, c'est l'État en général.
Voilà. Okay,
et on revient à l'idée de sens moral. Si je me permets juste un petit mot de conclusion, ce qu'il est déjà 20h35, sauf si vous avez d'autres interventions. Mais, finalement, la question que vous avez posée, ça m'a fait penser au moment où vous l'avez posée, une micro-fable, un apologue d'un philosophe allemand, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Je ne me rappelle plus de l'ouvrage duquel est tirée cette petite image, vous allez voir. Et finalement, il nous met en scène des porcs-épics, les fameux porcs-épics de Schopenhauer. Et imaginons un troupeau de porcs-épics par une rue de journée d'hiver. Et il nous dit, ils sont pris dans une sorte de contradiction, en tout cas de dilemme, parce que soit les porcs-épics, dit-il, s'isolent les uns des autres de peur de se piquer, mais ils meurent de froid, ou en tout cas ils sont gênés, soit ils se rapprochent pour se tenir chaud les uns les autres, et donc supporter la journée d'hiver. Mais, par nature, c'est ce que vous disiez, madame, ils n'y sont pour rien. Leur disposition de porc-épic les pousse, admettons que ce soit le cas, en fait, dans la réalité, c'est pas ça, hein, les pousse à se piquer les uns les autres, à s'entre-piquer. Et donc, soit je suis tout seul,
je me protège les autres et je protège les autres, mais j'ai froid. Soit je me rapproche, mais je deviens victime des autres, ou je deviens agresseur des autres. Et Schopenhauer évoque cette petite image pour dire une chose très simple, mais finalement, les porcs qui piquent, c'est nous. Nous sommes seuls, on ne peut pas vivre, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des animaux grégaires, et j'ai besoin de me rapporter à autrui pour exister, tout simplement, dans toutes les facettes de mon existence. Mais lorsque je me rapproche des autres, malheureusement, alors il y a une vision pessimiste hein, chez Schopenhauer, c'est le philosophe du pessimisme.
Oui. Tout va dire les bonobos, ça aurait été
différent. Ah, nous sommes des sapiens. Mais malheureusement, lorsque je me rapproche des autres, eh bien, on s'entrepique. On s'entrepique, on se pique les uns les autres. Soit on rapporte ça à l'ego, soit on rapporte ça à des pulsions, soit à des querelles d'intérêt, soit à l'instinct de prédation. Et tout ça, je pense, est évidemment vrai. Et il nous dit, mais que font les porcs épiques? Ils essayent de trouver une juste distance, une distance moyenne, je crois que c'est ça qu'il dit, pour faire en sorte qu'on ne soit ni trop près ni trop loin. En gros, pour qu'on puisse se réchauffer les uns les autres, mais sans être une menace pour autrui. Et que font les humains? Ils essayent de trouver cette juste distance. Et selon lui, et je pense que c'est l'un des points qu'on n'a pas évoqué, mais qui ouvre à tout ce qu'on a évoqué, cette juste distance que nous trouvons les uns les autres, ça a été évoqué à un moment donné, c'est ce qu'il appelle la politesse et les bonnes manières. Enfin, les belles manières, je ne sais pas ce qu'on met dans belles manières, si c'est manger comme Nadine de Rothschild, enfin moi je ne sais pas. Bref, donc la politesse et les bonnes manières. Et finalement, la politesse, qu'est-ce que c'est? Nous dit Schopenhauer, c'est la capacité d'arrondir les angles, c'est la capacité de vivre en société, c'est-à-dire, c'est une sorte d'hypocrisie social, assumé par chacun, et dont on fait l'expérience chacun en tant qu'auteur, chacun en tant que bénéficiaire, et en fait c'est le fruit de notre éducation. Nous apprenons à être polis, c'est-à-dire nous apprenons à être hypocrites les uns envers les autres, pour vivre en société, parce que sinon on ne pourrait pas vivre en société. Si on se disait tous les jours nos quatre vérités, ça serait la guerre.
C'est la diplomatie.
Sauf que ce qu'on a envie de dire, et Schopenhauer s'arrête là, dans le petit extrait que j'ai en mémoire, sauf qu'on a envie de dire, c'est que malheureusement, parfois, souvent, ça dépendra de là où vous voulez placer la focale, la politesse ne suffit pas, la politesse est insuffisante. On peut être poli comme et raffiné comme un nazi peut l'être.
Donc le respect.
Et finalement, peut-être qu'à un moment donné, au-delà de la politesse, il faut soit, on l'a évoqué, l'affirmation de la loi, soit, vous l'avez évoqué, mesdames, l'idée d'un sens moral qu'on n'a pas creusé. Effectivement, on sait très bien, peut-être au fond, que ce qu'on fait, on ne devrait pas le faire, mais qu'on le fait quand même, etc. La loi, un sens moral, la capacité à un dialogue, ou alors, ce que dit Sigmund Freud, je termine là-dessus, Freud, dans Malais dans la civilisation, il nous dit, ben voilà, il y a Eros, il y a Thanatos, et on est quand même vraiment une sale espèce, quoi. Et il écrit ça en 38, 39, je ne sais plus, Laurence, la date de publication de Malaise dans la civilisation. Et par contre, ce qu'il nous dit, mais il n'y a pas. Le pare-feu à ça, la réponse, ce n'est pas l'appel aux meilleurs sentiments, etc., etc. D'accord ? Ça, c'est très beau, mais bon, voilà. Le pare-feu, la solution, enfin, la réponse qu'on veut apporter à ça, c'est la civilisation. Et la civilisation, ce n'est pas les beaux-arts, la culture, la philosophie. La civilisation, ce n'est pas uniquement la loi. La civilisation, c'est l'apprentissage de la frustration. C'est l'apprentissage de la frustration, c'est-à-dire faire en sorte, et c'est le rôle du surmoi chez Freud, c'est le rôle, si on voulait rentrer dans la logique freudienne de l'éducation, c'est apprendre à ne pas toujours suivre, ou pas complètement suivre, la pente de son désir. C'est ça la civilisation, c'est renoncer à son désir, renoncer à la pleine satisfaction de son désir. Et ce qu'on apprend à, quand on est gosse, et ce qu'on apprend à nos enfants, c'est précisément ça, c'est tu ne peux pas tout. Tu n'as pas le droit à tout, tu as le droit à plein de choses, tu as le droit de vivre, tu as le droit qu'on te respecte, tu as le droit à satisfaire ton désir, mais tu n'as pas le droit, tu n'es pas maître dans ce royaume qui serait la terre ou je ne sais quoi, d'accord, tu n'es pas un tyran. Et finalement, je vais t'apprendre par la loi, par la sanction, par l'éducation, par mille et une stratégies, par la non-violence, je vais t'apprendre à renoncer à une partie de ton désir. Suis-moi la partie tyrannique de ton désir qui, génère chez toi, vous le disiez, monsieur, des conflits intérieurs, et qui génère chez l'autre des véritables conflits. Et finalement, si je veux reprendre, c'est un clin d'œil, mais les golfeurs, et encore une fois, je n'ai vraiment rien contre eux, il y a peut-être des golfeurs parmi nous, bah, peut-être qu'à un moment donné, lorsque les incendies sont ceux qu'on a vécu, lorsque la sécheresse est celle que l'on vit encore aujourd'hui, lorsqu'on voit le niveau de la Loire, peut-être qu'à un moment donné, on peut, pendant quelques temps, quelques mois, accepter d'être un peu frustré. On en parlera après. Accepter d'être un peu frustré, c'est-à-dire essayer de renoncer à une part de son désir, ou du moins de l'aménager d'une façon légèrement différente.
Mais voilà. Le désir vient lui-même d'un objectif, de toute façon, c'est pas grave.
Hein. Merci. Donc n'hésitez pas, excusez-moi, j'aurais dû terminer par cette note positive. Il y a un petit pot et un petit temps de convivialité si vous voulez partager un verre, partager un morceau, continuer la discussion. Voilà, c'est là.
Et
c'est
juste donner là. Un petit coup de main pour ranger les chaises.
Et donner un petit coup de main pour ranger les chaises. Merci.
On va séparer les tables. Sinon, on les continue.
Non, mais on peut commencer par.
Excusez-moi, je n'ai pas été clair. Les miens ont l'autre.
Thank you. Ah bah, je voulais se couper, c'est bien. C'est parti, hein, on va pas décourager les bonnes intentions. Hein. Oui, bon.